Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, K comme Kitano, Takeshi Kitano, avec Jean-Pierre Limousin, Benjamin Thomas et Ntebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, un plan large qui s'inscrit tout naturellement dans le week-end spécial que France Culture consacre au Japon à l'occasion de la saison culturelle Japonisme 2018. Il est à parier qu'il y a 20 ans, c'est Kitano qui aurait été mis en avant par cette manifestation. Dans les années 90, il était l'enfant chéri des cinéphiles occidentaux, la coqueluche des festivals internationaux comme Cannes et Venise. On le considérait à raison comme un des plus grands artistes mondiaux du 7e art et pas seulement, puisque même ses peintures étaient exposées à la prestigieuse Fondation Cartier. Aujourd'hui, ses derniers films sont sortis directement en DVD ou en VOD, voire restés inédits hors d'Asie. Si son étoile critique et publique a pâli, la ressortie en DVD et Blu-ray des films de sa première partie de carrière remettent en lumière l'immense cinéaste qu'il est. Violent Cop, Jugatsu et Sonatine, le film qu'il a révélé à Cannes en 1993, Kids Return, Hanabi, qui lui valut un lion d'or à la Mostra de Venise, et une vaste reconnaissance internationale, l'été de Kikujiro, enfin autant de jalons essentiels dans une œuvre qui cultive volontiers l'art du contre-pied et de la rupture de ton, tragique et burlesque, violente et tendre, nihiliste et rêveuse, une vision très noire du Japon, une critique féroce d'une société sclérosée et oppressive, mais toujours habitée par l'esprit d'enfance, du jeu et de la dérision, une œuvre que nous explorerons avec deux grands kitaniens, le cinéaste Jean-Pierre Limousin, qu'il a filmé deux fois comme acteur dans Tokyo Eyes et comme sujet de son portrait, le bien nommé Takeshi Kitano l'imprévisible, pour la série Cinéma de notre temps de Jeannine Bazin et Andreas Labarthe. Et puis Benjamin Thomas, maître de conférences en études cinématographiques à l'université de Strasbourg et auteur de plusieurs textes essentiels sur le cinéaste. En fin d'émission, Ntebin restera en territoire nippon pour évoquer le volume 2 du coffret L'âge d'or du cinéma japonais que publie Carlotta avec un dictionnaire des acteurs et actrices japonais et 4 films en DVD, dont un inédit de Mikio Naruse. Mais pour l'heure, place à Takeshi Kitano. Attention, cet homme est dangereux.
来たな。仲間連れて警察来なさい。俺が何したって言うんだよ。俺何もやってねえよ。何もやってねえのか。ん？何もやってないのか。じゃあ俺もな。何もやってねえのか。
On n'est pas obligé de parler et de comprendre le japonais pour comprendre qu'un certain nombre de mandales ont été distribués dès ce premier extrait. C'est le début de Violent Cop. Le policier Azuma a frappé à la porte d'un adolescent et lui a administré une correction sévère pour le pousser à se rendre à la police. Il faut savoir que le jeune adolescent, avec sa bande, dès la toute première séquence du film, avait tabassé violemment un clochard. Et un clochard, c'est la première image qu'on verra chez Kitano. Le film s'ouvre sur un plan fixe d'un visage immobile, le visage d'un clochard. Et dès le début, Benjamin Thomas, vous considérez que tout Kitano est là. C'est-à-dire, c'est le stade ultime de l'individu vieillissant, en rupture de clan, dans son aboutissement, qui sera celui du clochard. Et il y en aura beaucoup des clochards chez Kitano, Benjamin Thomas.
Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tout y est ? En tout cas, il y a dans cette première image...
plusieurs fils qui se nouent, c'est assez fascinant. C'est-à-dire que, comme vous l'avez bien dit Antoine, la première image du premier film de Kitano, c'est d'abord longuement un plan fixe sur un personnage immobile, le visage sur son visage un rictus, lui-même figé. Et on reste comme ça de longues secondes. Un plan peut paraître long quand il ne se passe, entre guillemets, rien à ce point. Et tout à coup, le mouvement va s'inviter dans tout ça, et avec lui une amorce d'histoire, de situation en tout cas. Et cette situation, elle est d'une violence assez inouïe, à l'image de ce qu'on vient d'entendre, qui en est en fait le prolongement d'une certaine façon, qui en est la conséquence. Cette violence, elle va s'exprimer lorsqu'une bande de jeunes adolescents vont mettre en mouvement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont finalement obliger ce vieil homme qui était immobile à se mettre en mouvement, mais pour mieux l'arrêter de nouveau, quoi, pour mieux le terrasser, c'est le cas de le dire, l'immobiliser au sol. Et en effet, il y a beaucoup de Kitano dans ces premières images. Vous l'avez rappelé, je pense qu'il y a déjà là une évocation, une esquisse d'un motif ou d'un thème d'ailleurs très important chez lui, qui va se rejouer dans la scène suivante, d'ailleurs dans la séquence suivante, sur un mode plus léger. J'y reviendrai, mais c'est ce motif d'une opposition, d'une tension très forte d'emblée entre un individu, une trajectoire individuelle, un individu esselé, et une bande qui est d'emblée un clan, un groupe, qui est d'emblée dépeint sur le mode de la violence, quoi, comme une effraction, quoi.
Alors, le public français va mettre du temps à découvrir ce film, parce que là on est en 1989, on ne le découvrira en France que beaucoup plus tard, dans les années 90. Mais j'imagine que pour le public japonais, c'est quand même une sacrée surprise de voir Kitano apparaître comme ça, parce que l'image de Kitano au Japon, Jean-Pierre Limousin, n'est pas exactement la même qu'on a en France. Là-bas, au départ, c'est d'abord un amuseur public, un animateur télévisé, une sorte de Cyril Hanouna japonais, ce qui fait que dans cette première tentative d'acteur, on se souvient, nous, en France, l'avoir vu dans Le Furio d'Oshima, où il jouait ce sergent sadique qui torturait David Bowie. Les spectateurs japonais, eux, ils rigolent quand ils le voient, parce qu'ils sont habitués à ce que ce soit un personnage comique.
Oui, bon, il y a plusieurs personnages à l'intérieur de Kitano, quoi. On en connaît au moins deux, en tout cas, quoi. Donc, il y a quelqu'un qui est assez sérieux, qui s'appelle Takeshi Kitano, et puis il y a quelqu'un qui est très burlesque, qui est un peu imprévisible, qui est un acteur, et qui s'appelle Beat Takeshi. Et alors vous avez parlé du film de Shima dans Furio, au générique, et c'est le seul film où son nom de Kitano Takeshi apparaît, quoi. Sinon, dans tous les autres films, c'est Beat Takeshi qui joue, même dans les films étrangers, dans tous ces films, quoi. Et en fin de compte, Beat Takeshi était un personnage qu'il avait créé avec l'un de ses amis quand ils avaient fait un duo comique qui s'appelle de l'ordre du Manzai, qui est vraiment comme un stand-up très particulier, mais au Japon, mais qui toujours eu un succès populaire, qui existe toujours, il y a toujours des écoles de manzai. On voit d'ailleurs dans Kids Return, une œuvre beaucoup plus tard, des jeunes adultes en tout cas, qui essayent justement de monter un duo de manzai. On voit que c'est pas facile, quoi.
Oui, on y viendra quand on parlera de Kids Return, c'est un peu les seuls qui s'en sortent d'ailleurs dans cette
histoire. C'est un duo qui est pas du tout improvisé, c'est un duo très travaillé, c'est deux personnes devant un unique micro. Donc il y a des problèmes d'espace et des choses comme ça. Et c'est des choses où il faut tchatcher contre la société, quoi, contre le quotidien, contre des choses comme ça. Et c'est un énorme succès, quoi, vraiment. Et quand ils ont fondé ce duo, ça, tout de suite, ça décollait, quoi. Et il est devenu, je parle de Kitano, effectivement, un amuseur de la télévision. Il a encore d'ailleurs, je sais plus combien, mais à une certaine époque, il animait 7 émissions de télévision, 7 par semaine, quoi, qui est un truc énorme, quoi, vraiment, parce que c'est des émissions très longues, avec plein de gags, etc., avec beaucoup de trivialité, un peu de poésie, et un tout petit peu quelque chose chez lui qui est vraiment incroyable, qui est de vulgariser la science, de vulgariser la culture. Donc, il y a des choses comme ça. Pour nous, ça, c'est des émissions un peu incompréhensibles. Il n'y a pas d'équivalent, quoi. C'est comme ça qu'il est devenu une grande vedette de la télévision. Mais pour le cinéma, il garde son nom de Takeshi Kitano, parce que pour lui, c'est une vertu, le cinéma, quoi. Et donc, on va parler d'un cinéma... d'un cinéaste qui ne fait pas du cinéma à plein temps. Il fait du cinéma de temps en temps, quoi.
Mais alors quand il le fait, il s'oppose considérablement à son image, parce que autant il est tchatcheur, rigolo à la quand il est à la télévision, là quand on le voit apparaître la première fois dans ce film Violent Cop, oui. C'est l'exact opposé. C'est le personnage mutique, c'est une sorte de Clint Eastwood japonais, la démarche lourde, la parole avare et les coups arrivent volontiers.
Quoi. Là, vous avez passé l'extrait effectivement de Violent Cop, qui est son premier film. Mais en fin de compte, il devait jouer dedans. Et puis, c'est un grand réalisateur, Kinji Fukasaku, qui devait le réaliser.
Et puis, le Yakuza.
Compte tenu du... Oui, qui est un grand spécialiste de films de Yakuza, quoi. Mais quand il s'est aperçu du planning de Kitano, qui avait déjà ses 7 émissions hebdomadaires, il dit, c'est pas possible. Je peux pas tourner le lundi et reprendre le mardi prochain, quoi. J'aurai plus d'inspiration, je me retire du film. Et en fin de compte, Kitano, qui est quelqu'un d'assez timide, bizarrement, on a une vision de lui assez terrifique, assez violente, quoi. Mais c'est quelqu'un d'assez timoré, en fin de compte. Mais il a osé, effectivement, poser la question à la Shochiku, qui était la société, le studio producteur de ce film, s'ils acceptaient qu'il dirige le film, quoi. Ils ont dit oui, parce que c'est une énorme opportunité pour eux, commercialement, quoi. Mais seulement, voilà, il savait ni diriger une équipe. On lui a demandé le premier jour de tournage un découpage, chose qu'il n'avait jamais réalisée. Mais quand même, il a réussi, en luttant avec son équipe technique, effectivement, à déjà mettre un peu les fondements de son style dans ce film, quoi. Et vous avez passé l'extrait qui était effectivement très drôle. Il faut dire que cet homme est dangereux, mais dangereux aussi pour la société japonaise, dans le sens où, après cette scène avec cette chose avec ce clochard qui est agressé par une bande de jeunes, donc il apparaît un peu de nulle part. Et il apparaît dans la maison, effectivement, devant la maison de l'un de ces petits voyous, quoi. Donc il sonne, il rentre, et puis là, il y a quelque chose qui est déjà transgressif, qui est vraiment incroyable pour les Japonais, c'est qu'il retire pas ses chaussures. C'est c'est le Dirty Harry. Il retire pas ses godasses, il monte directement à la chambre de l'ado pour le questionner et le frapper, quoi. Et ça, c'est quelque chose où il y a quelque chose d'un sacrilège, déjà là, dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, quoi. Il ressort forcément avec ses godasses, quoi, vraiment. Et dans ce premier plan, il y a quelque chose qui est vraiment incroyable, c'est que, et là, on voit effectivement que c'est un peintre, et il y a des lignes de fuite qui apparaissent vraiment dans son cinéma et qui vont apparaître dans sa peinture. Je dis ça parce que, par exemple, c'est pas quand il rentre dans cette maison, c'est pas frontalement. On voit que cette maison fait un coin et qu'il y a un chemin qu'il aurait pu prendre aussi, quoi, vraiment aussi pour ne pas rentrer dans cette maison, quoi.
兄貴やれって言ったじゃないですか。俺がやれって言ったら俺の女でもやんのかこら。止めろ、おく。ありましたよ。よいしょ。ええ。何やってんだお前。ああ。すげえな。ああ、相手。押さえてろ、おら。ああ、相手。押さえろって言うんだよ。自分で。自分でやるよ、俺。止めろ。止めろ、指止めとくねろ。押さえろ。ありげ。
scène horrible où on se coupe le petit doigt. On est chez les Yakuza. Alors je vous vois Benjamin Thomas beaucoup rire. C'est vrai que la scène est assez étonnante parce qu'ici, Kitano, c'est dans Jugatsu, son second film, son deuxième film en 1990. Il ne joue pas un policier violent, il joue un petit caïd yakuza assez étonnant, très dans la joie et dans la perversité permanente. Et là, il oblige, à cause d'une dette envers ses patrons, son lieutenant, à se couper le petit doigt à sa place. Mais enfin, il lui a fait des choses avant qui sont pas forcément ce qu'on attend d'un yakuza. Alors autant, dès ses premiers films, on voit cette sécheresse de style, cette façon extrêmement impressionnante de filmer. On développera un peu son sens notamment de l'ellipse et de la coupe, mais là il y a aussi dès le début la volonté de travailler le personnage masculin, enfin de désacraliser l'icône virile qu'est le yakuza en général dans le cinéma japonais. Benjamin Thomas.
Oui, alors là dans cette scène c'est sur un mode à la fois burlesque et cruel, enfin ce qu'il n'y a pas toujours un peu de cruel dans le burlesque, mais oui, alors en plus ça évoque quasiment une, disons que c'est une exagération d'une scène d'un Fukasaku où un personnage doit se couper le doigt comme ça et le doigt tombe de la table et on le retrouve plus, quoi. Bon, là, la version est un peu différente, mais il y a cette manière de plaisanter avec ce décorum yakuza. Et effectivement, vous avez raison, Antoine, ça nous indique quelque chose d'important, c'est que ce soit sur le mode du comique ou du tragique, il y a toujours une interrogation chez Kitano des assignations identitaires qui sont de la masculinité, quoi. Les rôles masculins sont systématiquement interrogés, et il faut dire que il prend des rôles masculins emblématiques, quoi. Ce sont des hommes qui vivent dans des milieux violents, virils, etc. Et systématiquement, les personnages kitaniens, là, alors, dans Jugatsu, il joue un personnage secondaire, entre guillemets, c'est pas lui le personnage principal, mais il est là aussi pour afficher ça, pour afficher cette espèce de dérèglement dans le rapport à l'identité yakuza. Et sur un mode plus tragique, on retrouve ça dans, par exemple, dans Sonatine et dans d'autres, hein. Mais effectivement, c'est un élément très important.
On va y arriver, évidemment, à Sonatine, mais c'est un film pas très connu de Kitano, mais qu'un de ses films préférés, il l'a toujours dit, et qui a cette structure qu'on reverra souvent chez Kitano, qui est la structure circulaire. Le film commence et se termine dans des toilettes sur le visage d'un adolescent dans la pénombre, et on peut se dire aussi que le film a été imaginé complètement par un jeune homme un peu en marge de la société, comme souvent chez Kitano, qui aurait rêvé ça dans des toilettes.
Jean-Pierre Limousin. Totalement, c'est comme si c'était un rêve effectivement de ce mauvais joueur, qui est un adolescent, on va dire, qui s'est enfermé aux toilettes, qui a rêvé toute cette violence. À la fois du baseball, à la fois d'un yakuza qu'il a pris à partie dans une station-service, et ce voyage à Okinawa pour chercher une arme. Effectivement, il y a beaucoup de choses assez circulaires. C'est un tout petit peu comme Dolls aussi, où ça part effectivement, qui est un autre film plus culturel, disons, qui part effectivement des marionnettes, voilà, et il a toujours dit c'était comme si c'était le rêve des marionnettes, voilà. Pour revenir un tout petit peu à Violent Cop, en fin de compte, c'est le problème de Kitano, qui est un comique, mais dans le comique il y a beaucoup de violence aussi. Il s'est vraiment posé la question, lui-même ayant subi ou ayant provoqué beaucoup de violence aussi, comment filmer la violence, quoi. Comment trouver quelque chose comme ça, quoi.
Il le dit dans votre documentaire, dans votre portrait, Jean-Pierre Limousin, il dit pour bien filmer la violence, il ne faut pas beaucoup avoir tapé, il faut beaucoup avoir été tapé.
Oui, oui, oui. Et il dit surtout, c'est la douleur, quoi. Ouais. C'est la douleur que l'on ressent, quoi, parce qu'on est, pas souvent gagnant comme ça, quoi, mais on a une douleur qui est incroyable. Mais dans Violent Cop, donc il y a deux choses. Il faut dire que quand il a commencé un peu les films, c'est un peu la période un peu genou, un peu avec des ralentis qui viennent de Sam Peckinpah, un peu sur la violence, espèce de choses un peu du ballet, des choses comme ça, quoi. Non seulement ça, mais il y a une scène de violence que je trouve vraiment incroyable pour quelqu'un qui réalise son premier film. C'est qu'à un moment donné, il a acculé un dealer dans les vestiaires d'un commissariat. Et bon, il y a une petite ruse où il a laissé un revolver à côté, pensant que ce dealer allait choper ce revolver. Le dealer lui dit « Je suis pas si con que ça, regarde-moi, etc. » Donc Kitano le regarde et il sort son revolver. Et là, on est, la caméra est derrière, il n'y a pas du tout de coupe, quoi. Donc il y a une tension un petit peu entre le dos de Kitano et cette personne qui a déjà été beaucoup amochée aussi par Kitano. Hein. Et en fin de compte, Kitano le vise, décale un peu son bras et tire. Et on voit l'impact de la balle dans le mur, quoi. Et c'est quelque chose qu'il a expérimenté. Alors, je lui ai posé la question une fois et il n'a pas trop bien apprécié que je lui pose cette question, d'ailleurs, parce que le tir était réel, le plomb était réel, etc. Et je lui ai posé la question, est-ce que l'acteur en face de vous était au courant, quoi? Parce que dans son intention, c'était de filmer à la fois l'effroi, la stupeur sur le visage de cet acteur, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé après le tir, quoi. Ce qui l'intéressait beaucoup, quoi. Voilà. Il m'a pas répondu sur ça. Il a pas voulu me répondre, quoi. Mais le fait effectivement que dans son deuxième film, dans Jugatsu, il joue un rôle d'un yakuza décérébré avec des scènes horribles, terribles. Vraiment, on peut pas avoir d'empathie. Au fur et à mesure du film sur le personnage joué par Beat Takeshi, quoi. Mais le fait que ça soit un rêve, c'était possible pour lui de jouer ça, quoi. Voilà, de jouer cet horrible, ce méchant, quoi. Vraiment, personnage.
Oh, お前ちゃんと狙えよな。勘狙うんだぞ。危ねえじゃねえかよバカ野郎。この辺取んなかったかおい。
拳銃貸せ。じゃんけん。
なんすか。
じゃんけんだよ。お前もやれよ。ん？
はい。
じゃんけん。もう負けたな。
何するんですか。危ないじゃないですか。
じゃんけん。ほら、じゃんけんだよ。じゃんけん。また負け？
ちょっと待ってくださいよ。
Vous écoutez France Culture, plan large sur Takeshi Kitano. Alors là aussi, on se tire dessus à balles réelles, mais c'est pour rigoler. C'est un extrait de Sonatine, le film qui a fait connaître Kitano en France, en tout cas, et certainement dans le reste du monde. D'ailleurs, le film avait été présenté à Cannes, je m'en souviens très bien, j'y étais, ça avait été un choc en 1993. Il faudra attendre encore 2 ans avant qu'il sorte en France. Et on est dans un de ces moments qui a beaucoup frappé quand on a découvert le film. On était, pour les amateurs, un peu habitués au film de Yakuza et à la violence, mais dans ce film il y a surtout du jeu, il y a tous ces moments sur la plage, on est à Okinawa précisément, et pour tuer le temps en attendant, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On joue à la roulette russe, on joue à se tirer dessus avec des feux d'artifice, mais aussi à balles réelles, et puis avec cette grande partie de sumo incroyable, de personnages immobiles comme ça, et c'est ce sentiment, ça reviendra souvent chez lui, que le jeu, le retour à l'enfance, à la puérilité, est finalement ce qui peut essayer de sauver les personnages, Benjamin Thomas.
Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait de ce malaise, de ce mal-être des personnages de Yakuza, des personnages masculins, de leur insatisfaction profonde, finalement, vis-à-vis de ce monde dont ils sont issus. Et ils vont très vite vouloir s'en écarter. L'une des premières phrases que prononce le personnage de Kitano, qui est cette fois-ci le personnage principal dans Sonatine, c'est, il dit, ils sont en voiture avec son lieutenant Ken, joué par Susumu Terajima, et il lui dit qu'il est fatigué, en fait, qu'il en a assez de cette vie-là. Donc vraiment, on commence tout de suite, ça donne le ton. Et ce qui est très important avec les jeux, c'est effectivement très très loin d'être anodin et accessoire, le refus des personnages kitaniens de cette identité virile, c'est assez logique finalement, elle va s'exprimer par un retour à une forme de jeu et de puérilité qui devient du coup très subversive en fait. Et c'est vrai que Sonatine, ça nous montre ça, ça nous montre un littoral, un lieu nu qu'on va pouvoir, dont on va pouvoir réinventer les manières dont on va l'habiter, qui devient un lieu de jeu en fait.
Le littoral, précisément, c'est cette bande entre la terre, entre les montagnes et la mer, quelque chose qu'on retrouvera toujours chez Kitano. Et dans le film que vous lui avez consacré, Jean-Pierre Limousin, il va parler de la mer. Il va dire que quand je suis à la mer, je le cite, je rêve de suicide, hein, cette envie de revenir aux origines, alors que quand je suis à la montagne, je peux rêver, je peux me laisser habiter par la nature. Et il va filmer toujours cet espace interstitiel qui est celui de la plage. C'est là que dans Sonatine, il va y avoir tous ces jeux. Jean-Pierre Limousin.
Oui, et pour lui, la mer, c'est quelque chose qui est habité par trop de démons, par trop d'esprits. C'est quelque chose de... C'est un lieu terrifique, quoi. Vraiment, il se baigne jamais. Il raconte un peu ses souvenirs quand jeune, il était obligé d'aller dans l'eau à la piscine. Même là, ça le... Il fuyait, ça a toujours été... Et là, dans ces récits, en fin de compte, c'est des récits qui sont structurés comme... dans le kabuki, il y a ça. Il y a toujours, souvent, des amants qui se traversent, qui traversent le pays, qui sont confrontés à la mer, à un endroit où ils ne peuvent pas traverser, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien, etc. Et dans le kabuki, ça se termine toujours par un double suicide, quoi. Alors chez lui, c'est inconcevable, effectivement, que le point de départ ne soit ordinaire, que ce soit un homme et une femme qui fuient. Donc c'est toujours un homme ou une bande d'hommes qui fuient, qui se trouve effectivement confronté à la mer, et en fin de compte, et la femme, une femme arrive. Voilà. Et ça se termine souvent par des suicides voire des suicides amoureux, quoi. Dans Sonatine, il y a cette histoire de, bon, les yakuza, les gangsters, qui sont quand même des gens assez raides, assez frustres. J'en ai côtoyé pas mal pendant assez longtemps. Et la seule chose un peu vivante, c'est leur enfance, quoi. Dont ils peuvent aussi parler, ils peuvent aussi s'attribuer des simulacres aussi d'enfance, quoi. Ce qui fait que sur cette plage, il faut dire aussi que ça devient très poétique, quoi. C'est ça qui est vraiment incroyable, que c'est à la fois un souvenir de Kitano, effectivement, avec ce jeu de figurines en papier qui joue des sumo, quoi, qui reconstitue dans une baraque, c'est un peu foireux, et l'idée étant de le reconstituer avec des vrais hommes sur la plage. Et la scène est splendide, quoi. C'est vraiment de poésie, d'interrogation aussi sur le temps, quoi. Qu'est-ce qu'on fait sur la plage quand on a si peu de vécu comme les gangsters, où le vécu des gangsters n'a pas lieu d'être là, quoi. C'est une butée. C'est une butée un peu métaphysique, presque. Et Sonatine, c'est le début d'une période un peu bleue pour Kitano, quoi. Il y aura aussi plusieurs films comme ça, où la couleur bleue va devenir un peu plus prédominante, où ça va s'arrêter un peu au bord de l'océan, quoi. Voilà.
おめえらセンスねえんだからよ。大阪行って勉強してこい。
Voilà, un exemple de Manzai, on en parlait tout à l'heure, duo comique qui fait un peu un bide ici, puisque les héros de Kids Return, le film de Takeshi Kitano en 1996, s'essayent au Manzai, et ça ne fait rire personne. Alors il y a eu deux événements importants entre Sonatine et Kids Return. Le premier, c'est un film étonnant, Getting Any, une sorte d'auto-sabordage de Kitano, comme il y en aura plusieurs dans sa carrière, un film qui parodie un peu ses gags télévisuels et qui déconcerte tout le monde au Japon, et encore plus à l'étranger, et puis surtout un accident de moto, un grave accident de moto, c'était le 2 août 1994, qui laissera à Kitano le visage à moitié paralysé, d'où ce tic facial qui deviendra aussi un des marques, une de ses marques de fabrique et qui rendra ses personnages encore plus inquiétants. Et suite à cet accident, il fait Kids Return. Et Kids Return, il dira, Jean-Pierre Limousin, que c'est le film du salut, de la rédemption pour lui, c'est-à-dire un retour. Alors là, on parlait de personnages qui retournent à l'enfance, là il retourne très largement à sa propre adolescence.
Oui, alors, quand on parle de ça avec Takeshi, il dit non, il n'y a rien de biographique. Il se défend vraiment violemment en disant ça. Alors, il y a toujours des choses de sa biographie, mais c'est toujours glissé, quoi. Il y a toujours, c'est toujours réinterprété, etc. Bon, c'est normal, c'est un peintre, quoi, et c'est pas un documentariste, quoi. Vraiment, il se départit vraiment de ça, quoi. Mais effectivement, là, c'est le film de la rédemption, dans le sens où, il est resté longtemps à l'hôpital. C'était vraiment un accident où il, lui-même le dit, il était vraiment très saoul. Il s'est cassé beaucoup d'os et il s'est ravagé le visage, quoi.
Il est prêt à reconnaître que c'était presque une tentative de suicide.
Quasiment. À un moment donné où c'est quelqu'un parfois de mélancolique aussi. Un peu, il faut dire qu'il a une vie très dure aussi, quoi. Une enfance d'un père qui était alcoolique, dont il lui a parlé à peu près trois fois, c'est ce qu'il dit, trois ou quatre fois, c'est tout, et une mère qui voulait vraiment que tous les enfants deviennent des ingénieurs, donc qui les battait pour apprendre, vraiment. Donc, et Takeshi a été longtemps un rebelle, a séché des cours, est entré à l'université de Meiji pour des cours scientifiques, mais il n'a pas tenu longtemps, quoi. Il a vite été chauffeur de taxi, travaillé dans un cabaret de striptease, etc., quoi. Et c'est là qu'il a rencontré effectivement son duo dans ce cabaret qui s'appelait France, voilà, qui était détruit il y a pas si longtemps, quoi. Alors, ce qui est très étrange, c'est que bon, là, je fais une digression, mais j'étais voir ce cabaret, j'ai filmé le truc d'ascenseur. Mais c'est, il y a un truc assez étrange quand il dit que les gars sont l'ascenseur. L'ascenseur est tout petit, mais vraiment il peut contenir que 2-3 personnes. Ça montait au premier étage. Enfin, c'était vraiment pas le lieu, quoi. Je pense qu'il faisait aussi d'autres tâches, quoi, que ça, quoi, vraiment. Et la chance aussi de Kitano, un petit peu comme pour son premier film, c'est que bon, il regardait à la fois les striptease, il l'avoue vraiment, il regardait les filles, et puis il regardait les comiques. Il les trouvait pas très bons, il trouvait un peu ringard. Et puis un jour, il y en a un qui tombe malade. Et on lui a demandé à brûle-pourpoint, s'il pensait le remplacer. Et il l'a remplacé, et ce qu'il faisait, en improvisant, était vraiment très drôle, quoi. Donc c'est comme ça aussi qu'il est rentré un petit peu, sans le vouloir, sans forcer vraiment le destin, quoi. Et Kids Return, c'est à la fois ses souvenirs, c'est les souvenirs d'amis de Kitano, quoi, de collège, quoi, vraiment, qui étaient des cancres, qui s'embêtaient, etc. Il y a un très bel entretien avec Asumi, on parlera un petit peu avec lui, qui était le recteur, le président de l'université de Tokyo, et qui était le premier professeur à donner cours de cinéma à Tokyo, quoi. Et il parle un peu du mépris des professeurs. Bon, c'est quelque chose où c'est très incorrect ce que je dis là, mais c'est vraiment dans le système japonais, quoi, vraiment. Et donc ça lui plaisait vraiment que des choses très potaches, des gags, mais vraiment de Takeshi, enfin des gags de la télé apparaissent aussi dans ce film-là, qui était une espèce de renaissance qu'il avait, il pensait vraiment arrêter, voilà, à la fois, je ne sais pas quoi, s'il pensait arrêter le cinéma ou la télévision, mais il pensait vraiment, ça suffit, quoi, je ne peux pas être les deux, c'est pour ça qu'il est rentré dans le mur avec sa moto, bon, il avait beaucoup bu, etc., quoi, mais là, c'est vraiment quelque chose où il reprend ses marques. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, dans son premier film, en fin de compte, c'était une équipe de techniciens qui l'a accepté, enfin qui était déjà là, qui était déjà engagé pour le film, mais ça se passe pas comme ça au Japon. Il faut vraiment travailler avec sa famille, quoi, avec ses techniciens. Et depuis le deuxième film, il a toujours travaillé avec le même technicien à l'image, au son, au décor, à l'exception de Hanabi où qu'on parlera plus tard, mais comme il avait dit, il voulait filmer la neige et que la neige est à Paris plus tôt, il a été obligé de prendre l'assistant de son opérateur, quoi. Sinon, depuis le début, il a fait 18 films, c'est toujours la même équipe, quoi. Et effectivement, c'est le fait de reprendre comme un travail avec cette équipe aussi a été vraiment pour lui très régénérescent, quoi. Vraiment, c'est un film de la rédemption, quoi.
ハートの8クローバーの4ダイヤの12ハートの10ダイヤのエースクランキーチョコレート
Sur la belle musique de Joe Hisaishi, un moment rare de tendresse dans un film quand même singulièrement brutal. C'est un extrait de Hanabi, mais je l'ai dit tout à l'heure, le film qui lui a valu un Lion d'Or au Festival de Venise, l'acmé de sa reconnaissance internationale. Et c'est un peu un pendant Benjamin Thomas de Kids Return. C'est-à-dire autant Kids Return, il était dans quelque chose d'assez mélancolique, mais de plutôt calme, qui racontait son enfance. Là, c'est le côté noir de Kitano. C'est un film au montage très étonnant. Il faut rappeler que Kitano fait le montage lui-même de ses films. C'est presque l'espace mental d'un dépressif et c'est par la mise en scène montrer ce qu'est une dépression, Benjamin Thomas.
Oui, il y a effectivement de ça. On pourrait presque, comme on l'a dit, mais d'une toute autre manière, comme on l'a dit de Jugetsu, certaines de ces images dans Hanabi, la structure du film est parfois très étrange, hein. Il y a des retours en arrière et certaines de ces images pourraient presque être lues comme des images mentales, effectivement, du personnage. Ce que je trouve particulièrement intéressant, dans Kids Return, si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on voit apparaître des peintures de Kitano. Mais elles sont encore dans le décor. Elles décorent un café ici ou là. On n'y prête pas attention. Ce qui est très intéressant avec Hanabi, comme on s'en souvient, c'était assez marquant, c'est que là, la peinture, elle est, les dessins de Kitano, jouent un rôle dans le film, littéralement, puisque l'un de ses amis se met à peindre, après une opération de police qui est pour lui dramatique et qui le laisse handicapé. Jean-Pierre a plusieurs fois dit que Kitano était un peintre et je crois que c'est tout à fait juste. C'est beaucoup plus qu'une métaphore. Enfin, c'est-à-dire, il a un regard de peintre. Jean-Pierre parlait tout à l'heure des lignes de fuite et on pourrait même aller plus loin. Il y a constamment une tension chez lui entre des plans travaillés avec les lignes de fuite et des plans qui, comme dans ses peintures, visent à aplanir l'image, en fait, travaille avec cette volonté de traiter l'image comme une surface plane. Et c'est constamment en tension chez lui. Il y a dans le film de Jean-Pierre qu'il a consacré à Kitano une scène que je trouve absolument parfaite pour ça, hein, c'est, qui est beaucoup plus qu'anecdotique. Je crois que c'est la fin, Jean-Pierre. C'est quand il vous allez chez Kitano et il insiste, j'imagine qu'il a insisté, pour être filmé en tant que peintre, en fait, peintre au travail. Et pour moi, c'est essentiel. Et Anabi, c'est quelque chose qui où tout ça se noue, quoi. Dans l'intrigue, la peinture est présente, mais la forme.
Oui, dans la forme aussi, parce que et ça, il le dira dans votre film, Jean-Pierre Limousin. Pour lui, l'idéal d'une scène, c'est la scène de début d'Anabi, scène sur le parking avec des employés de parking qui ont malencontreusement déjeuner sur le capot de la voiture de Kitano, et ça lui plaît pas du tout, et qui sont une succession d'images quasiment fixes, enfin on est presque dans la jetée de Chris Marker, avec cet idéal qu'il vous dira, moi mon idéal ça serait qu'on prenne un photogramme par scène et qu'on puisse faire un montage comme ça d'images fixes comme on le fait dans la peinture. Et là c'est effectivement, c'est pas seulement le peintre qui va citer ses peintures à l'image, il pense comme créateur d'images fixes.
Mais c'est après son accident de moto, donc à l'hôpital, qu'il a commencé à peindre, effectivement, et sans trop savoir, quoi. C'est ça qui est vraiment incroyable. Revenons un peu en arrière, dans Violent Cop, quand il est viré de la police, là, on le voit dans une galerie, arriver vers nous, avec un super chandail, il est très à l'aise, il a été viré de la police, qui était quand même un film qui joue beaucoup sur l'inversion, quand même aussi, quoi. Dans le sens où on a l'impression que c'est un yakuza qui est intégré, qui fait de l'entrisme dans la police. Bref, la première chose qu'il fait, on le voit arriver dans la galerie marchande, et tout de suite, il y a un raccord, et il regarde, alors qu'il était très, très, très violent avant, très rugueux, on peut pas, enfin, il y a plein d'adjectifs comme ça, il regarde Chagall, comme ça, il y a une exposition de Chagall, quoi, dans un film de la Chouchikou, où ça bastonne sec, quoi, quand même, bon. Là, après son accident, à l'hôpital, il s'est mis à peindre, et avec, il a pris le goût vraiment de ça, et effectivement, dans Kids Return, il y en a qui sont vraiment assez éloignés. C'est très, il ose pas trop les montrer. C'est vraiment un peu caché quand même, un peu dans la pénombre. On n'y fait pas trop attention. Mais dans un abyss, c'est dans tous les plans. Il y a un truc de fou, quoi. Il y a un truc de fou. Je faut pas se demander effectivement quelle est la fonction, quel est le sens de ces accrochages, parce que on voit la peinture dans les cafés, chez les yakuza, à l'hôpital, enfin partout, quoi, partout. Et vraiment l'or, le jaune de Van Gogh est très présent dans ces peintures, et ça saute aux yeux. Et c'est vraiment, c'est un mystère, quoi. Qu'est-ce que ça raconte d'avoir exposé sa peinture là, effectivement, quoi. Et sa peinture, alors, il y a beaucoup de Kusai dedans, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment, c'est les choses qu'il a visitées, revues, etc. Quoi. Kusai étant un personnage, un peintre qui a eu plusieurs identités, quoi. Un peu comme Kitano aussi. Donc ça le travaille aussi là. Ça. Et voilà. Chose incroyable aussi, c'est qu'il fait pour quelques initiés. Quand le fils Kitano, on en reparlera, existait encore, chaque année, ils envoyaient un calendrier, donc tout par mois, il y avait une peinture de Kitano qui était reproduite, était incroyable, sublime, et c'est l'enfance revisitée, quoi. C'est pas naïf, hein, c'est vraiment très mystérieux, très méchant parfois aussi, quoi. Mais c'est très poétique, quoi. C'est vraiment incroyable.
Alors on n'aura malheureusement pas le temps d'en entendre un extrait, mais l'été de Kikujiro suivra. Et là on parle de sans arrêt le contre-pied, c'est-à-dire que quand Kitano va faire un film très sombre, il va faire un film lumineux après. C'est le cas de l'été de Kikujiro. D'ailleurs, vous parliez de son père tout à l'heure, le prénom de son père c'était Kikujiro, et là Kitano va faire une sorte d'hommage à son personnage de père pour le jouer, mais il y aura aussi beaucoup de peinture là encore dedans, et avec cette figure de l'ange qui est une des obsessions de Kitano, qui dans votre film, Jean-Pierre Limousin, il va traduire comme une volonté de s'abstraire de la gravité de la pensée. C'est comme ça que Benjamin Thomas, vous lisez cette figure récurrente de l'ange Kitano?
Alors, je me suis pas, pour tout vous dire, je me suis pas posé la question.
Devriez.
Oui, je devrais, c'est sûr. Non, mais non, ce qui est, blague à part, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est, de manière presque dérisoire, triste, touchante, elle est l'effigie qui vient se substituer à la mère qui n'est plus là, qui a refait sa vie et qui ne veut plus de ce petit garçon, Masao, qui est au cœur du film. C'est un ange, d'ailleurs, qu'on voit apparaître encore une fois dans une, dans un habit, dans une peinture de Kitano avec une aile brisée. Donc il y a vraiment tout est tension chez Kitano. On a parlé de la tension entre ligne de fuite, planéité, mouvement, immobilité. On aurait pu parler aussi de son usage du montage, dont il se souvient constamment et il travaille très consciemment là-dessus, sur du fait que le montage est toujours en même temps fragmentation et lien. Voilà, il y a quelque chose de très... Et là, il y a encore ça, vous voyez, il y a une tension très forte qui s'incarne dans cette figure de l'ange, à l'aile brisée notamment, entre volonté d'élévation et pesanteur du monde, quoi, d'une certaine façon.
Oui. Jean-Pierre Limousin.
Juste rajouter quelque chose au propos de Benjamin, c'est il y a beaucoup de scènes où, en fin de compte, Kitano a la tête dans l'herbe, enfin, où il y a des scènes un peu d'infamie, quoi. Lui-même dit, ouais, c'est comme ça que je me conçois, quoi, vraiment. Par exemple, il y a la scène de la piscine où, quand même, ne sachant pas nager, il fait cette scène avec une bouée d'enfant, et on le retrouve, il y a un plan, effectivement, où il a la tête sous l'eau, il y a juste les pieds qui gigotent, effectivement, au-dessus de sa bouée, quoi. Il y a quelque chose un peu d'infamie, et l'ange étant le contraire de ça. C'est quelque chose qui élève, quoi, vraiment. Je pense pas qu'il ait de culture, je suis certain qu'il a pas de culture religieuse, catholique, en tout cas, sur ça, quoi. C'est vraiment de l'ordre de l'évaporation. Voilà, et il y a des anges aussi dans Dolls aussi. C'est quelque chose qui est un peu récurrent, quoi. Un peu dans...
Voilà, aujourd'hui on aura parlé que de la première partie de carrière de Kitano. On fera peut-être une émission pour la suite. Merci Jean-Pierre Limousin, Benjamin Thomas. Il faudra attendre le 21 novembre pour découvrir en DVD et Blu-ray et en version restaurée Violent Cop, Jugatsu et Sonatine. Ce sera chez Wildside avec des bonus de Benjamin Thomas. En attendant, on peut déjà se procurer depuis quelques mois les Digibooks avec DVD, Blu-ray et CD de la musique originale de Joe Hisaishi, de Kids Return, Hanabi et L'été de Kikujiro. C'est chez L'Arabia. Pour les amateurs de cinéma japonais, fin novembre sortira à la Martinière le livre collectif 100 ans de cinéma japonais. Pour accompagner la riche rétrospective de la Cinémathèque française, dont le premier volet s'est achevé mercredi, rétrospective qui reprendra en décembre. Il y a aussi Naomi Kawase au Centre Pompidou, rétrospective et exposition, c'est à partir du 23 novembre, avant la sortie de son nouveau film Voyage à Yoshino le 28 novembre. Et puis enfin, le pornographe de Shohei Imamura ressort lui en salle le 14 novembre. Toutes ces informations et d'autres encore, dont de nombreuses projections à la Maison de la Culture du Japon, sur la page plan large du site franceculture.fr grâce à Pascaline Bonnet. Avant de retourner au Japon, je signale encore la ressortie en salle mercredi dernier du départ de Jerzy Skolimowski avec Jean-Pierre Léo. Allez voir le film parce que ça vous préparera un plan large spécial sur et avec Skolimowski, plan large qui aura lieu en mars prochain. Nous voyons loin. En attendant, retour au Japon et à l'ambiance feutrée et jazzy des bars à hôtesse.
ある午後のことだった。 昼のバーは化粧をしない女の素顔だ。
Il y a deux ans, c'était le 24 septembre 2016, Plan Large recevait dans ce studio le réalisateur et spécialiste du cinéma japonais Pascal Alex Vincent pour fêter la parution du premier volume de son coffret L'âge d'or du cinéma japonais et du dictionnaire qu'il avait dirigé, dictionnaire des cinéastes japonais. Et voilà que sort le deuxième volume de ce coffret qui comporte cette fois encore un dictionnaire, mais un dictionnaire des acteurs et actrices japonais avec force anecdotes à la clé comme le refus de Toshiro Mifune, l'acteur fétiche de Kurosawa, la seule star internationale du cinéma japonais, refuse, conseillé par son agent, de jouer Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. On y apprend aussi l'exigence de Tatsuya Nakadai, l'équivalent de Toshiro Mifune chez Kobayashi, de jouer les samouraïs avec un vrai sabre, parce que sinon c'est pas rigolo. Il y a également dans ce coffret 4 films en DVD, dont 2 inédits, à commencer par celui dont on vient d'entendre un extrait, Quand une femme monte l'escalier de Mikio Naruse. Quel éclairage nouveau ce coffret porte-t-il sur le cinéma japonais, Ntebin, et notamment sur son star system, puisqu'il est question d'acteurs et d'actrices?
Bah oui, justement, c'est-à-dire qu'en France, on a l'habitude quand même de considérer le cinéma japonais essentiellement à travers ses cinéastes. Et ce que nous apprend de façon très intéressante ce livre, qui est consacré à quelques grandes stars du cinéma japonais, c'est pas tous les acteurs, c'est notamment le système des studios qui était très très institué. Il y a même eu un accord à un moment donné, qui une sorte d'accord tacite qui interdisait en fait à des studios d'engager des vedettes d'un autre studio parce que les vedettes c'était le trésor national de chaque studio. Donc il y a ça premièrement, et puis deuxièmement on peut enfin mettre un nom sur certains acteurs qui sont devenus pour nous comme des amis, des familiers, parce qu'on les a vus aussi bien dans les films de Mizoguchi, Kurosawa, Ozu ou Naruse, que dans parfois des films de genre qui ressortent en DVD ou qu'on chope sur une chaîne spécialisée à la télévision. Et on s'aperçoit à ce moment-là que c'est quand même tout un pan de l'art du cinéma japonais qui a été négligé sans doute au profit d'une politique des auteurs, mais ce qui aurait été intéressant, c'est de faire la part des choses entre ce qu'apporte l'acteur à l'univers d'un cinéaste et la direction du réalisateur. Par exemple, vous venez de citer Mifune. Il y a un excellent documentaire qui a été réalisé en 2015, où d'ailleurs on voit d'anciennes stars féminines, partenaires de Mifune qui témoignent de la façon, de ce qu'a vraiment apporté Mifune sur les tournages, et que Kurosawa, qui était quand même très exigeant, voire tyrannique parfois, eh bien Mifune, il le laissait faire.
Oui, il est vraiment co-créateur de ces personnages. Toutes les actrices qui travaillent avec lui décrivent un bourreau de travail qui préparait énormément ces personnages, mais et qui après avait libre cours sur les tournages,
oui,
de Kurosawa.
Et qui en plus parvient à créer une ambiance qui permet à ses partenaires de jouer. Et alors, il y a un extrait extraordinaire, c'est Kyoko Kagawa qui joue le rôle de la jeune folle dans Barbe Rousse et qui doit refuser une cuillerée de sirop. Et on voit que Mifune l'aide à refuser, puis petit à petit à accepter, après avoir éclaboussé, renvoyé les cuillerées à la gueule de Mifune, et comment à la fin elle accepte très timidement d'avaler sa première cuillerée. C'est très court, c'est une scène muette, et on voit à quel point l'art de l'acteur finalement va construire finalement l'ambiance de la scène.
Alors, star japonaise toujours, pour le côté féminin, Hideko Takamine, dont on apprend d'ailleurs dans ce dictionnaire qu'elle avait appris à parler fort bien le français, on la découvre dans ce film dont on vient de passer un extrait, film inédit de Naruse, Quand une femme monte l'escalier.
Alors, Hideko Takamine, c'est un cas d'école, puisque chez nous, enfin, elle est connue essentiellement pour les films de plutôt sa deuxième partie de carrière, comme muse de Naruse. Mais en fait, c'était une superstar. Dès l'âge de 6 ans, c'était déjà une star. C'est une star enfant qui savait chanter et danser. Ça a été la femme la plus payée de tout le cinéma japonais. C'est elle qui joue dans Carmen revient au pays de Kinoshita, qui est le premier film japonais en couleur, qui est une comédie musicale où elle joue le rôle d'une stripteaseuse qui revient dans son village. Et elle va mener de front cette carrière populaire populaire, sans le moindre problème, avec un travail vraiment de longue haleine, avec un très grand créateur, et ça lui permet de... Enfin, dans Une femme monte quand une femme monte l'escalier, est un film féministe absolument extraordinaire sur un destin de femme qui est à la fois rebelle, révoltée, c'est-à-dire que c'est pas... On nous montre pas la condition féminine sous une forme aliénante pour permettre aux spectateurs de prendre conscience. Non, ce sont de vraies héroïnes qui prennent en charge leur destin, ce qui est extraordinaire.
On trouve encore dans ce coffret DVD et dictionnaire un film quasiment théorique, mais enfin d'une théorie flamboyante comme c'est le faire qui joue Yoshida. C'est Aveu théorie actrice, qui est une réflexion de groupe sur ce qu'est être une star au Japon.
Oui, alors c'est un film qu'on pourrait appeler de la nouvelle vague japonaise des années 60-70, et Yoshida en fait se penche sur la fin du système des studios dont on a parlé là tout à l'heure, et il fait en quelque sorte un 8,5 où il n'y aurait pas le personnage du réalisateur. C'est-à-dire qu'il y a toutes les femmes qui l'entourent et qui ont chacune une histoire. Il y a une mise en abîme permanente avec des plans très pop art d'ailleurs, une utilisation de la couleur assez singulière. Et bon, c'est un film assez bizarre, on va dire, qui confronte trois générations en fait d'actrices qui toutes les trois, peut-être à part Mariko Okada qui est la femme de Yoshida, mais toutes les trois, finalement leur carrière va péricliter très vite, puisque ce système finalement très protecteur, même s'il est parfois autoritaire, des studios construit des carrières et construit aussi l'imaginaire des spectateurs japonais de l'époque.
Alors, le dernier film dans ce coffret est pas des moindres, il n'est pas inédit, mais c'est quand même un film tout à fait majeur. C'est le dernier film de Ozu, Le goût
oui.
du saké.
Alors c'est la plus belle histoire qu'a filmé Ozu, puisqu'il l'a filmé trois fois, d'abord dans Printemps tardif, puis dans Fin d'automne, Chishu Ryu, qui devait se vieillir pour jouer le rôle du père dans Printemps tardif, dans Le goût du saké, qui est en fait en japonais Le goût du poisson, a cette fois-ci l'âge du rôle. C'est le dernier film d'Ozu. Il va mourir le jour de son anniversaire de ses 62 ans, quelques mois plus tard. Et c'est vrai que plus on voit ce film, plus on est bouleversé. Et on peut le revoir éternellement. C'est le film le plus connu du coffret. Mais si vous ne l'avez pas, ça justifie à lui seul l'achat de ce livre et de ces DVD.
Quel était le rapport de Ozu avec ses acteurs?
Ozu avait, il y avait un rapport, les acteurs qui jouaient pour Ozu le vénéraient, mais il ne leur expliquait jamais les personnages. Ce que Ozu faisait, c'est qu'il il composait un plan. Et il composait aussi de la même manière le jeu de ses acteurs en leur faisant faire des gestes. Et c'est par le geste souvent quotidien qu'il arrivait à obtenir d'eux un jeu qui venait vraiment de l'intérieur, parce que l'acteur oubliait finalement qu'il jouait, qu'il interprétait, et il faisait les gestes de son personnage et donc devenait son personnage.
Merci Bin, on se quitte sur la belle musique composée par Takanobu Saito pour le film d'Ozu, Le goût du saké, un des films donc inclus dans le volume 2 du coffret L'âge d'or du cinéma japonais, avec ce dictionnaire des acteurs et actrices japonais, écrit par Tomuya Endo et Pascal Alex Vincent. Le premier volume avait d'ailleurs rencontré un tel succès qu'il était épuisé, il est réédité à l'occasion de cette parution, le tout est chez Carlotta. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui, à la prise de son, YouTube Diego Ac Lopez, l'émission
était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somanina. La semaine prochaine, Plan Large sur un cinéaste très influencé à ses débuts par le cinéma japonais, notamment le Yojimbo d'Akira Kurosawa. Il s'agit évidemment de Sergio Leone. Nous visiterons l'exposition que lui consacre la Cinémathèque française en compagnie de son commissaire général Gianluca Farinelli et du directeur de la Cinémathèque française Frédéric Bonneau. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture dans un instant. Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.